Vous écoutez
RMC.
RMC.
Déjà, même s'il y a eu un arrachage de poney, même s'il y a eu des insultes, c'est inadmissible.
Écoutez, Kevin De Bruyne dans zone mix.
Ah ouais, en mode vénère après le match. Après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
Non, mais je fais comme toi, tu sais, quand tu commences à attaquer comme ça, t'as fait une fois à Monaco quand il vient en jogging et qu'il sort. C'est normal. C'est normal de faire conférence de presse, c'est normal. Non. Mais pas ton bras, toi, t'as rien, ça, mais toi, t'es un coco. T'es un Netflix, c'est ça l'histoire. On peut pas te parler.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, le temple du foot à la radio. Le ballon ne s'arrête jamais de rouler. L'after est là tous les soirs de l'année. Avec autour de moi pour vous accompagner durant deux heures, la nouvelle génération. Elle est incarnée ce soir par Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Salut à tous.
Vous êtes en forme?
Salut Simon, salut tout le monde.
J'aime beaucoup ton survêt. Je ne sais pas qui ça représente.
C'est mon
vrai,
c'est mon Kawaii.
C'est ma compagne qui l'a rapporté d'Athènes.
Ah ouais.
Voilà. Il aura pris de Olympiakos, Panathinaikos.
Ah justement, elle m'a demandé quelle couleur je préférais.
Et toi, tu préfères le
celle de l'AEK. Voilà.
Ok, je suis d'accord.
Hommage à Anthony Martial.
Ouais. Ou à Harold Moukoudi.
Luka Jovic, j'ai découvert qu'il jouait là-bas, notre ami, cette année.
Moi, je suis plus Panathinaikos. J'ai été avec RMC Sport dans ce petit stade là, le petit stade en ville.
Ah, vous avez tapé Lens en barrage de conférence.
Non, c'était Lens. Non, c'était Lens ou le Rennes. Moi, c'était un match contre Rennes.
Il y avait joué
un match contre Rennes.
Ouais, je me souviens. Ouais.
C'est même Marseille en Ligue des Champions.
Mais avec une ambiance incroyable.
Mais le stade, il est extraordinaire. C'est un stade vétuste, mais une ambiance exceptionnelle. Et puis ce vert là, un beau vert.
Ah, je suis plus Olympiakos par contre.
Ouais. Ah ouais,
plus
pourquoi dans chaque ville on est plus quelqu'un que l'autre?
Ah non, mais.
Genre Milan, Inter, vous êtes plus qui?
Ah, Milan, on s'en va.
Moi aussi, genre. Milan.
Ah oui.
Ah, mais l'Inter, c'est beau quand même, c'est Ronaldo,
c'est
Milan.
C'est Milan.
Milan.
Après, ça dépend de quelle époque t'as accroché avec le club, etc. Moi, Milan de l'époque, c'est Giorgio Weah.
Roma Lazio, il y a quand même beaucoup, ce sera la Roma.
La Roma,
oui.
Non, mais bon, City United, à un moment c'était United, maintenant il y en a qui doivent être.
Non, ça reste toujours Manchester United.
Il y a les jeunes, ils peuvent être pour City.
À Londres, il y a un petit peu plus de choix. Ça peut
les City.
C'est vrai qu'à Londres, il y a plus de choix.
À Londres, je suis plus Arsenal.
Oui, ben moi, ça a failli être un maillot de Tottenham ce soir. Voilà, ça aurait pu souligner. Voilà.
Moi, je suis plus Arsenal aussi. Mais...
Au programme, messieurs, jusqu'à 22h, J-9 avant la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs sont attendus. De nombreux coachs également. Elton est impatient d'assister à ce mondial des entraîneurs. Maintenant que toutes les listes ont été dévoilées, quelle sélection vous fait le plus peur? Venez changer votre avis au 32-16 avec celui de nos experts. L'actualité du côté de Nice au menu également. À quoi s'attendre après le maintien arraché en Ligue 1? Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur, viendra nous donner les dernières infos. À 21h, l'avis de Jimmy qui voit le PSG déjà favori à sa propre succession en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors ce PSG double champion d'Europe est-il entré, comme le pense Nasser El Khelaifi, dans le cœur de tous les Français? Venez également nous donner votre avis. En fin d'émission, les dernières infos Mercato. Olivier Giroud qui prolonge à Lille. Konaté qui se dirigerait vers le Real Madrid. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà le programme. Jusqu'à 22h, on passera alors la balle à Nicolas Jamin pour l'after jusqu'à minuit. Salut Nico, on parle de quoi?
Salut avec Simon, salut à tous. L'after ce soir, vous le savez, avec Daniel Riolo, Florent Gautreau, Maxime Chanot et deux invités. Le premier est un ami de l'after. Il est passé chez nous avant de grandir sur les bancs de l'AS Monaco. Damien Perrinel sera avec nous. Il a connu quatre coachs à Monaco. Il nous dira quel est le meilleur, quel est le pire. De Nico Kovac à Sébastien Pocognoli. Il nous dira s'il croit toujours en Pogba. Il nous parlera de Golovin, d'Akliouche, son évolution qu'il a vu grandir de l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui. Plein de questions à poser à Damien Perrinel, le PSG Ligue des Champions aussi, la double confrontation Monaco qui a fait sortir Paris, le champion d'Europe. Vous vous rappelez Gilles Vessière,
arbitre? Évidemment, bien sûr.
Années 90, début 2000.
Ah oui, on a grandi avec
un des grands sifflets de notre Ligue 1. Gilles Vessière, le Niçois, il sort un bouquin, il sera avec nous là aussi, on a plein de questions à lui poser. Quel a été l'entraîneur le plus relou, le plus insupportable, le joueur le plus élégant sur un terrain?
Il avait arbitré une belle finale de Coupe d'Europe, je crois.
À la veste, Liverpool.
5-4, Liverpool. Le CSC de Jordi Cruyff.
Il était au sifflet ce soir-là. On va parler de ça, de nouvelles règles également de l'arbitrage pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis, l'after duel fer hier, elle va le faire ce soir. Daniel surtout va répondre à Emmanuel Macron, puisque vous savez, le président de la République s'en est pris à Daniel sans le citer lâchement. Sur le scepticisme de Daniel à l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Là, il va en parler, Daniel. Il va répondre au PR, comme on dit dans les milieux autorisés. Et puis, l'OM doit-il vraiment s'inquiéter pour son avenir européen? Vous le savez, potentiellement exclu de Ligue Europa pour ne pas avoir, a priori, respecté un accord passé avec l'UEFA. On parle d'oseille, bien sûr, de finances. Voilà, 22h l'after.
Rendez-vous 22h avec Nicolas Jamin donc pour l'after jusqu'à minuit. On vous attend, nous, nombreux au 32-16 sur le chat de la chaîne YouTube de l'after. Et puis, venez échanger sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Vous le savez, ce lien entre vous et l'antenne, c'est la promesse de RMC. Vous n'hésitez pas à en profiter. Génération After démarre tout de suite. Ah, ça passe vite, hein, les gars. Dans 9 jours maintenant, débutera la 23e Coupe du Monde de football. 11 juin, 19 juillet. Vous n'en manquerez pas une miette, évidemment, sur l'antenne de RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Alors, on attend évidemment des stars sur les pelouses américaines, canadiennes, mexicaines. On aura également du lourd sur les bancs de touche. Rarement, voire jamais dans l'histoire, le mondial n'aura rassemblé autant de grands noms, de fortes personnalités parmi les sélectionneurs. Cette Coupe du Monde est donc aussi celle des entraîneurs. Et ça, ça excite mon ami Elton. Avis tranché.
Il a été élu, alors pas homme du match, hein, le
Super,
most
player.
Voilà, redis-le, comment tu dis
Most player, c'est ça?
J'étais là.
D'ici là, je pense que j'aurais travaillé davantage sur mon anglais et sur cette manière d'être beaucoup plus fluente.
D'ailleurs, mais comment un gars comme toi, classe comme ça, moderne, tu parles pas anglais?
Écoute, je dirais pas que je parle pas anglais. Je dirais que j'ai des connaissances.
C'est très bien se faire comprendre en anglais quand tu en as besoin.
Exactement. Dans les moments décisifs, voilà. Dans les moments
exact, c'est très bien.
C'est clutch.
Let's go then.
Alors avant de te laisser la balle, Elton, je cite quelques noms. Évidemment, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Nagelsmann, Tuchel, Pochettino, Bielsa, Scaloni, Rudy Garcia, Roberto Martinez, et puis côté français, Sabri Lamouchi, Sébastien Migné. Voilà, tu as hâte de voir ces bastons de tableau noir également, cette bataille tactique.
Alors évidemment, on va regarder la Coupe du Monde pour les interprètes, ceux qui vont être sur le terrain, ceux qui seront les plus à même de faire la différence. Et moi, j'ai un attrait tout aussi particulier, notamment pour les entraîneurs. Et moi, j'aime beaucoup le football de sélection, ce qu'il peut apporter. Et pendant très longtemps, dans cette élite du football, moi, j'avais tendance à penser que le football de sélection est un peu un parent pauvre. Manière de dire quoi? Manière de dire que, en fait, ces postes de sélection était surtout pour des coachs qui étaient davantage à la relance. Là, sincèrement, quand tu regardes le casting avec notamment du Carlo Ancelotti, du Lopetegui du côté du Qatar, du Mauricio Pochettino et j'en oublie un, du Thomas Tuchel, on parle de coachs, de sélectionneurs maintenant qui ont gagné des Coupes d'Europe, qui ont fait des finales de Coupes d'Europe. Et moi, le fait d'avoir justement ce renouvellement des entraîneurs de clubs qui arrivent en football de sélection, pour moi, c'est très bien parce que j'ai tendance à penser que cette Coupe du Monde 2026 doit être un tournant, notamment sur la dimension tactique. J'ai notamment regardé le match États-Unis-Sénégal avec notamment l'équipe de Mauricio Pochettino et des préceptes tactiques qui m'ont intéressé, notamment sur ce pressing haut, ce pressing agressif, cette verticalité pour mettre en avant des joueurs comme Balogun, comme Pepi, comme Joe Reyna notamment. Et moi, je me suis dit que ce passage, notamment 2026, avec ces entraîneurs qui vont arriver, qu'il va y avoir une forme de compétition, tout ça, c'est bien pour faire grandir le football de sélection et que ces entraîneurs qui ont la volonté de s'inscrire dans la durée. Pourquoi je te dis s'inscrire dans la durée? Carlo Ancelotti vient de prolonger avec le Brésil. Nagelsmann a prolongé avec l'Allemagne. Thomas Tuchel a prolongé avec l'Angleterre. Donc, c'est pas des coachs qui sont là juste pour faire un tournoi et puis s'en aller. Bon, même si, attention, ça peut aussi dépendre notamment des éliminations précoces, etc., etc. Mais pour moi, le fait d'avoir des entraîneurs clubs qui ont été dans des gros clubs, je peux également te citer Graham Potter qui était entraîneur de Chelsea. Tout ça, ça m'intéresse parce qu'ils peuvent se fidéliser et ça peut justement faire un appel d'air qui va être très intéressant pour les prochains mois, avec notamment l'arrivée probable d'un certain entraîneur qu'on connaît bien, qui a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Et pourquoi pas aussi, on l'a évoqué la semaine dernière, ou plutôt il y a une dizaine de jours avec Walid, un Pep Guardiola. Raison pour laquelle je dis que cette Coupe du Monde va être très intéressante, notamment sur la dimension tactique, sur la dimension casting, parce qu'on a besoin justement d'avoir des entraîneurs phares, justement pour avoir le meilleur produit possible et avoir une Coupe du Monde qui sera pour moi de grande qualité.
Ce Mondial 2026 sera également la Coupe du Monde des entraîneurs. On en parle dans Génération After avec Elton Mokolo, Jimmy Brand, Kevin Diaz. Messieurs, en attendant nos auditrices et nos auditeurs au 32-16, votre réaction, est-ce que vous aussi, juste sur le plan factuel, le constat, Vous trouvez qu'il y a un panel de sélectionneurs jamais vu jusqu'ici ?
Sur le constat, c'est difficile de donner tort à Elton. Moi, j'ai pas souvenir d'une Coupe du Monde où il y avait autant d'entraîneurs avec des palmarès si importants, avec aussi, Elton a beaucoup parlé de tactique, mais aussi des personnalités fortes. On sait que les Coupes du Monde, c'est aussi les conférences de presse, avant, après des matchs. Moi, je suis pressé d'entendre de Tuchel, d'entendre Bielsa, évidemment, pour ne citer que. Enfin, oui, c'est vrai que sur les bancs, t'as un casting 5 étoiles, ça donne envie. Ça donne envie de voir les confrontations directes entre les uns et les autres. Est-ce que ça garantit, ça présage d'une Coupe du Monde spectaculaire? Ça, je pourrais pas te le dire. Moi, je reste encore très dubitatif sur la formule à 48 équipes avec 104 matchs. C'est-à-dire que pour avoir ces confrontations directes, il va falloir attendre un peu de temps et crémer un petit peu en début de compète. Mais ça peut annoncer des duels très excitants, oui, c'est clair.
Kevin, tout Ancelotti ou Nagelsmann qui soit, ils ont la possibilité en football de sélection d'imprimer la patte qu'on leur a connue en club. Tu crois ça ?
Bah, c'est un peu plus dur forcément dans le football de sélection parce qu'il y a moins de temps pour travailler. Maintenant, ça reste quand même, comme l'a dit Elton, hein. Pour le coup, c'est pas un avis tranché là. C'est un avis où on sera tous d'accord dans le sens où c'est pas clivant.
Donc t'es d'accord avec moi ?
Oui, c'est rare.
Mais s'il va te dire, ils sont flingués les coachs.
Les coachs, ils sont extraordinaires. C'est extraordinaire. Avant, tu sais, les sélectionneurs, c'était sans lui manquer de respect, mais c'était des Del Bosque, des joueurs comme Aimé Jacquet ou Roger Lemaire qui n'avaient pas fait des grands clubs européens. Mais aujourd'hui, en fait, les mecs, ils gagnent
tellement. Del Bosque, c'est pas le meilleur exemple. Il gagne une Ligue des Champions.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est vrai que Jacquet et Lemaire, c'est pas Ancelotti et Nagelsmann.
Del Bosque, c'est aussi dans ce qu'il dégage. Tu vois, c'est pas des grandes personnalités du football.
C'est pas charismatique.
C'est pas les. Je parlais en effet de charisme, de prestance, etc. Après, c'est des grands entraîneurs quand même. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur, on disait qu'il était très différent. Mais aujourd'hui, il y a tellement de joueurs. Ce qui est intéressant, je pense, c'est le parallèle avec le football de club. Aujourd'hui, les entraîneurs ont tellement d'oseille dans ces genres de clubs qu'en fait, c'est des sélectionneurs. Ils peuvent dire, lui, il me le faut. Ah, c'est 150. Allez, 145, mais on va le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, aujourd'hui, quand t'es à Chelsea, au Bayern, t'as un peu qui tu veux. Alors oui, il y a la concurrence, en sélection, il y a la concurrence.
Oui, mais t'as pas qui tu veux en sélection, parce que pour le coup, tu peux pas aller acheter un mec si t'as un déficit à un poste, tu vas pas pouvoir le régler avec de l'argent. C'est la différence.
Mais par exemple, aujourd'hui, il y a de la concurrence aussi pour les sélections. C'est-à-dire que t'as un Olise qui pouvait choisir entre trois sélections. Joueurs qui choisissent entre la sélection d'origine de leurs parents ou la sélection du pays là où ils ont grandi. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de concurrence, mais tout ça pour dire que les sélections aujourd'hui, ce sont tous des grands clubs, dans le sens où il y a énormément de grandes stars, il y a quand même des moyens pour travailler dans toutes les sélections avec des complexes d'entraînement qui sont monstrueux, avec des technologies qui sont très importantes, et donc ils ont quand même le temps d'optimiser un petit peu. Alors bien sûr, t'auras pas le projet de jeu d'un mec qui est là pendant 9 mois à peaufiner son équipe, mais tu sais que quand t'es sélectionneur de l'Allemagne, tu vas t'appuyer sur le Bayern notamment. Quand t'es sélectionneur de l'Espagne, tu vas t'appuyer sur le Barça notamment. En France aujourd'hui, tu peux t'appuyer un petit peu sur le PSG, même si on a un logiciel qui est très différent pour notre sélectionneur par rapport à celui de l'entraîneur du PSG. Et en Angleterre, t'as toujours les plus grands clubs qui fournissent les meilleurs joueurs.
Justement, Elton, tu le sous-entendais un petit peu dans ton avis. Il y a le jeu, il y a le foot, et il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et ces entraîneurs-là qui sont passés par la routine du club, tout ça, ils vont attirer également quand même l'attention. On a envie de les entendre. Je prends pour exemple le moment où on a entendu Carlo Ancelotti prononcer le mot de Neymar Junior, cette fameuse conférence de presse de l'annonce de la liste. Je veux dire, ce sont des gens qui créent également l'événement par leur vécu, par leur personnalité.
Mais j'ai presque envie de te dire que là, c'est le contre-exemple, puisqu'en fait, ça te prouve qu'au final, tu montes, tu descends, c'est les joueurs qui sont le plus attendus. C'est pas parce que c'est Ancelotti qui l'a dit, c'est parce que c'est le nom de Neymar qui
a donné une dimension quand même avec sa voix.
C'est parce que c'est Neymar que ça a fait cette folie-là, tu vois. Quand il t'a donné le nom de Ryan, tu t'es pas emballé devant
Non, j'aime beaucoup le
problème. Neymar, c'est le contre-exemple.
Ça va créer l'événement.
Il a raison, Simon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un manga. On est dans un manga où tous les meilleurs joueurs sont à la Coupe du Monde, où tous les meilleurs sélectionneurs.
Attention, il n'y a pas que 20.
Tous les meilleurs. T'as compris. Tous les meilleurs. Malheureusement, c'est vraiment un petit pays là, mais il aurait presque pu y être. Mais où tous les peut-être pas tous les meilleurs entraîneurs, mais en tout cas certains très grands entraîneurs des 20 dernières années y sont avec d'énormes sélections. Et donc en fait voilà, t'as tous les super guerriers, t'as tous les capitaines de la Flynet, de la Tau et de la Newpie qui sont là. Et aujourd'hui bah ça va être la grande explication, avec en plus les trois légendes qui sont encore là, donc Messi, Ronaldo et Neymar, qui font leur retour. Même Manuel Neuer, tu vois, c'est un peu le gardien allemand, tu vois, dans Captain Tsubasa, qui revient là de sa retraite, Thomas Price qui revient
Thomas
de sa retraite
Price,
et qui va dire voilà, je vais faire la dernière Coupe du Monde avec le Japon, quoi.
T'as Harry Kane qui va enfin aller la chercher avec l'Angleterre aussi. Non mais t'as d'énormes, enfin c'est, oui, il y a des,
y a des histoires extraordinaires.
Mais juste pour rebondir sur ce que disait Kevin tout à l'heure, je pense que moi j'ai parlé du côté face en disant oui, il y a 48 équipes, il y a 104 matchs, ça va être long, etc. Le côté pile, c'est ce qu'il évoquait, c'est la professionnalisation. Ce format de compétition permet de générer plus de revenus, on le sait, de mieux redistribuer à des fédérations. Et là où je rejoins Kevin, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation du foot de sélection. Parce que tu sens une vraie progression.
Exactement.
Avec des staffs complets. Et si ces entraîneurs-là, pour faire le point avec ce que disait Elton au départ, sont dans ces sélections aujourd'hui, c'est bien que, voilà, il y a des moyens différents aujourd'hui et on peut mettre en place des choses et on peut espérer que ça continue dans ce
sens-là. Il y a des moyens pour les payer aussi, les
entraîneurs. Voilà. Et pour moi, c'est le point qui est le plus essentiel, parce que moi, j'ai lu il y a quelques années un José Mourinho qui disait, le jour où j'irai en sélection portugaise, c'est quand je serai vieux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un repoussoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que on a de plus en plus de jeunesse. Un Nagelsmann, il a quand même refusé le Bayern pour prolonger avec la Nationalmannschaft au sortir de l'Euro 2024. Parce que aujourd'hui, t'as vraiment dans l'idée qu'on peut, on peut s'épanouir dans le football de sélection et on peut travailler.
Et puis, il y a quand même autre chose pour finir. C'est la qualité de vie d'un sélectionneur. C'est-à-dire que t'as pas la pression au quotidien pour ces mecs qui ont connu.
Carlo, il a changé de vie. Au Brésil,
même Nagelsmann, même Thomas Tuchel, ils ont une pression monstre au quotidien dans un club. Hein, le fameux documentaire et le fameux titre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es en sélection, bon, Luis Enrique avait beaucoup de pression en sélection aussi, mais c'est lui qui allait un peu se la chercher. Mais c'est quand même, voilà, c'est une fois tous les mois, c'est 3-4 fois par an. Et après, voilà, t'as la grosse compétition où là, tu sais que t'es en vase clos pendant un mois et demi, et là, tu vas. Mais eux, quand ils sont entraîneurs d'un grand club, la Coupe du Monde, c'est
pas un attention, pour moi, il y a quelque chose qui a aidé et tout dans cette adrénaline de la compétition. Moi, au départ, je la regardais avec beaucoup de méfiance. C'est la Ligue des Nations. La Ligue des Nations qui t'évite d'avoir des matchs amicaux à rallonge qui ne servent à rien. T'as un aspect compétitif qui permet notamment.
La Ligue des Nations, il y a Daniel Riolo qui la comprend pas.
Oui, mais enfin, je vais pas aller dans le sens de Daniel, mais pour, on est quand même à milieu entre un Euro, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations.
Non, mais ça, non,
mais c'est mieux que les amicaux secs, on sera tous d'accord là-dessus, oui.
Je suis d'accord, mais notamment pour ces sélectionneurs, ça te permet justement d'avoir notamment cette compétition. Pour moi, c'est l'équivalent d'un Masters 1000. T'as le Masters 1000 qui est la Ligue des Nations, le Grand Chelem, ou plutôt le Grand Chelem absolu, c'est la Coupe du Monde. Mais ça te permet aussi de travailler et de rester dans une forme de compétition plutôt que d'avoir des éliminatoires face à des équipes. Bon, même s'il faut faire des éliminatoires, qui te permettent justement d'avoir ce caractère compétitif.
Et puis, il y a un casting qui prouve, vous l'avez souligné, messieurs, que... le football de sélection n'est plus une voie de garage pour contrairement à ce que pensait José Mourinho il y a quelques instants.
Et puis, juste avant de te laisser finir, il y a quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, même si, on voit beaucoup de matchs, etc. Mais si tu demandes à tous les footballeurs du monde quelle est la compétition qu'ils veulent gagner.
Ah oui, c'est la Coupe du Monde.
Bah, je pense que pour 95%, si ce n'est plus, c'est la Coupe du Monde. Il n'y a pas mieux que la Coupe du Monde. Je veux dire.
Oui, c'est sûr.
Donc, ça reste quand même la compétition du football, quoi.
On va ouvrir notre débat avec Lai, qui a fait le 32-16, qu'on est ravis d'accueillir dans Génération After. Salut Lai.
Salut l'After.
Salut Lai.
Alors ta position sur cette discussion, c'est vrai que Kevin et Jimmy ont souligné que c'est pas vraiment un avis tranché, difficile d'aller contre le constat que fait Elton. Est-ce que toi aussi t'es excité par ce casting de sélectionneur au Mondial 2026?
Moi je trouve vraiment, c'est dommage, hein. Elton, je t'aime beaucoup de base, mais problème c'est que vous avez parlé beaucoup de jeux, oui c'est bien hein, le jeu, la gagne, c'est très bien, mais j'ai pas entendu une fois où parler d'identification, de patriotisme, parce que moi, voir un Italien être sélectionneur de du Brésil, je comprends pas. J'entends des débats, est-ce que Deschamps peut aller en Italie? Pour moi, si ça arrive, c'est une catastrophe. Voir des coachs comme Rudy Garcia avec Belgique, c'est pareil, hein. Moi, je trouve pas ça. Moi, je trouve que pour moi, c'est pas une bonne chose pour.
C'est un débat qui revient souvent.
C'est un débat parallèle un petit peu. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis là. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. C'est un vrai sujet.
C'est très intéressant ce qu'il dit dans la mesure où en fait l'élitisme, notamment accru du côté du football de sélection, t'amène ça, à savoir que à partir du moment où les sélections veulent progresser, elles vont pas s'embarrasser par rapport à cette notion de patriotisme. Et c'est vrai que voilà, le fait de voir Carlo Ancelotti au Brésil.
Ouais, ouais, mais l'exemple d'Ancelotti est bon là. T'as vu la galère que c'était pour trouver des sélectionneurs fiables au Brésil. C'est à un moment donné, Ancelotti, il arrive après une succession d'échecs de sélectionneurs locaux. En Angleterre, c'est pareil. Tuchel arrive après une succession d'échecs aussi.
Tu dois aller chercher un Italien pour venir sélectionner ton pays. Moi, je trouve que non.
Ouais, mais après, attention, si tu fais face à un plafond de verre et tout, que t'as pas des résultats avec entre guillemets un entraîneur local, qu'est-ce que tu fais pour développer ta sélection?
Bah tu dois avoir un projet.
Pour le coup le Brésil, c'était l'émission de Ruquier, on a tout essayé avec les entraîneurs locaux, ça n'a pas marché et t'as même été à un moment donné t'as terminé 5e de la phase éliminatoire absolue.
J'entends ton argument mais moi tu m'excuseras mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Aujourd'hui les Brésiliens, les meilleurs entraîneurs au Brésil, c'était les Portugais pendant un moment. Là ils ont choisi un Italien, pourquoi pas? Écoute, il faut pas,
tu préfères la gagner avec Ancelotti que sortir au premier tour avec un Brésilien,
bien sûr. Aujourd'hui, les Brésiliens, il y a Scolari a entraîné le Portugal. Il y a plein de pays. Les pays africains.
Il t'a posé une question. Tu trouves ça normal?
Moi, je trouve ça. En tout cas, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas,
c'est vrai qu'on a Ancelotti italien au Brésil. Tourelle, s'il la gagne pour l'Angleterre, personne viendra lui reprocher sa nationalité.
Regarde, lui, c'est un Allemand. Il va coacher quand même l'Angleterre.
Il y a eu ces débats-là en Angleterre, mais ils sont vite éteints parce que. Au regard des débuts assez pro de Tourelle qui a réussi à faire des choix importants.
Le problème, c'est quoi? C'est parce que ça rompt avec une identité de jeu. Tu te places sur le sportif.
Regarde, même nous, par exemple, moi je suis sénégalais. Avant, on allait chercher des Français ou d'autres. Mais depuis qu'on a arrêté d'aller chercher d'autres nationalités, notre sélection, elle se porte beaucoup mieux.
C'est ce que j'allais t'objecter, c'est qu'il y a beaucoup de sélections africaines qui font appel à des sélectionneurs locaux. Durant des décennies, on allait chercher à des mecs qui n'avaient pas forcément de succès en Europe.
Et là, à raison de souligner, ça marche bien, pour le coup.
Le Cameroun, pendant des années, a gagné des compétitions et a eu des sélectionneurs étrangers sur son banc.
Oui, il n'y a pas de règle absolue.
Bien sûr que dans l'absolu, c'est mieux d'avoir un gars qui connaît le pays, etc. Mais bon, quand tu arrives sur une génération où les entraîneurs sont moins compétents, écoute.
Il y en a beaucoup, regarde, Kevin. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est comme si c'était logique, quoi. C'est devenu logique pour moi, mais pour moi, c'est pas logique.
Après, attention, là où il y a un effet pervers, notamment, je vais te donner trois exemples. Je vais te donner l'exemple du Brésil, je vais te donner l'exemple de l'Italie et de l'Angleterre. Ouais. Il y a tellement d'attentes autour de ces sélections qui n'ont plus rien gagné depuis longtemps, encore plus l'Italie qui n'arrive même pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est qu'il y a une pression qui est tellement importante sur les locaux que même des entraîneurs locaux qui pourraient arriver en sélection, ils ne veulent plus y aller. Je vais te dire, l'Italie, à un moment donné, on n'a pas envie de se griller par rapport à sa carrière. Parce que il y a aussi la dimension patriotique, mais aussi le CV. Je veux dire par là, l'échec avec ta sélection nationale, impacte fortement ta carrière.
Après, contre-exemple, c'est Gattuso, il peut se planter partout, il retourne Gattuso, il a pu planter l'Italie, il retourne à la Joe derrière. Alors qu'il a pris l'Italie après avoir planté.
Mais tu vois, par exemple, imagine-toi un Southgate qui a fait objectivement un passage en Angleterre qui a été réussi. Mais qu'est-ce qu'il a pas pris comme critique? Au point même qu'à la fin, il s'est dit, je préfère démissionner. J'ai fait finale, alors que parce que tu vois, il y a cette notion de clubisme qui arrive. Ouais, c'est un entraîneur anglais, pourquoi il prend pas celui de Manchester?
Ça fait pas débat en Angleterre. Le fait que ce soit.
Il te l'a dit, Jimmy.
Oui, et puis même au moment de cette liste qui a été tellement.
C'est toujours pareil, là, ça fait débat avant. Au final, si Tuchel, il t'amène la deuxième étoile pour l'Angleterre, tout le monde applaudira et il n'y aura plus de nationalité.
Malheureusement, la gagne, ça gagne toujours.
Oui.
Là, et ton pronostic, qui va remporter cette Coupe du Monde?
Le Sénégal.
Un petit peu de
méthode couée. Merci beaucoup là d'être venu au 32-16 partager ton avis et bon mondial évidemment à l'écoute de RMC. Jimmy Brown, Elton Mokolo, Kevin Diaz vous accompagnent durant 2 heures jusqu'à 22 heures. Génération After, on continue de se projeter sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde. maintenant qu'on connaît toutes les sélections, toutes les listes de toutes les sélections, qui faut-il le plus craindre? Venez nous donner votre avis. On est de retour dans quelques instants.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Simon Dutin.
Accompagné ce soir de Kevin Diaz, Jimmy Brown, Elton Mokolo, Génération After en direct jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'After jusqu'à minuit avec Gilles Bessières notamment, invité, l'ancien arbitre international qui sort un livre et qui a beaucoup de choses à raconter à Daniel, à Flo Gautreau et Nicolas Jamin. Nous d'ici là on se projette toujours sur la prochaine Coupe du Monde, J-9, hein, vous n'en manquerez rien évidemment sur
c'est
RMC.
C'est fou.
C'est fou, c'est déjà la Coupe du Monde.
Je suis
monde,
encore sur ma finale de Ligue des Champions, dans 9 jours, c'est la Coupe du Monde.
T'as bien raison, toi.
En même temps, quelle vie, quelle vie lorsqu'on est supporter du PSG et supporter de l'équipe de France.
Il est encore sur le pénal de Gabriel. Hein.
J'ai un avis tranché que j'avais pas dit à la prod.
Ça arrive trop vite.
Mais non. Vu que maintenant j'ai entendu l'avis tranché d'Elton, je voudrais faire un avis tranché sur le fait que il y a quand même des gros joueurs à cette Coupe du Monde.
Alors, écoute, le pro,
c'est quand même un grand pays de sport.
Je vais m'enfermer dans une pièce et je vais réfléchir juste à la réponse que je vais t'opposer.
On va aller dans des
pauses. Juste ça.
J'ai un avis tranché.
On va aller quand même. Dixit, le mec, il dit, vous aimez le travail de Pierre Sage. C'était ça.
Kevin Diaz, j'attends avec impatience.
Moi, je pense qu'on va aller dans des beaux stades de...
J'attends avec impatience la programmation de Génération After Food et je serai là.
Allez, ça tacle un petit peu dans le studio de Génération After. Alors que nous, Français, on s'avance quand même, vous en conviendrez, parmi les favoris de cette compétition. On va se demander de qui on doit se méfier le plus. Alors avant de se projeter sur les favoris donc, ou épouvantails, hein, comme vous voulez, de ce tournoi 2026, petit quiz pour vous les amis autour de la table. Est-ce que vous pouvez me citer les 8 quarts de finalistes de la dernière édition du Mondial 2022 au Qatar?
Il y a du France-Angleterre.
France-Angleterre, c'est bon. 2-1 pour la France.
Argentine-Pays-Bas.
Argentine-Pays-Bas, le score
2-2 sans essai au but.
Maroc-Portugal.
Oui, le score
Maroc-Portugal, ouais.
Maroc-Portugal 1-0.
Exactement.
Et Brésil-Croatie. Et Brésil-Croatie, les Croates au tir au but.
Voilà, un partout.
Avec le but de Neymar en prolongue.
Vous êtes solide comme ça, sans avoir fait.
Sur les scores.
J'essayais de vous prendre un petit peu de par surprise.
Blague à part, ce qu'il fait Walid, c'est complètement incroyable.
Mais il est en intox à chaque fois. Il dit jamais. Il a ChatGPT en fait.
Non, c'est vraiment vrai. C'est extraordinaire.
C'est problématique, limite.
Voilà, Walid qui a un. Je sais pas comment on appelle ça, mais.
Mais dès qu'il s'agit du foot, parce que le reste,
il est bugué l'ordi. Il est HBF,
Voilà, il retient tous les scores de tous les matchs. Alors, toutes ces équipes citées, elles sont qualifiées pour l'édition 2026. Est-ce que vous les voyez à nouveau en quart et qui voyez-vous s'inviter dans la course pour les empêcher de se qualifier? On rappelle que il n'y avait pas d'Espagne du coup dans cette liste, éliminée en 8e par le Maroc. L'Allemagne avait été éliminée en poule. C'est le Japon et l'Espagne qui s'étaient qualifiés. L'Allemagne s'était faite éliminer
au
en compagnie
d'un
du
scénario dingue sur la dernière journée.
Du Costa Rica, exactement, avec des buts de la Corée du Sud, je crois. Dans un qui voyez-vous se mêler à cette lutte? Qui peut être la surprise 2026, l'équivalent du Maroc 2022?
Eh ben le Maroc.
Le Maroc.
Le back to back. Ouais, je vois les Marocains très solides. Je pense que le Japon aussi peut être. Je vais m'engager un petit peu sur le Japon qui peut être une belle surprise. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe, qui arrivent à maturité. Ils ont une belle sélection. Les Japonais, ils n'arrêtent pas de progresser de Coupe du Monde en Coupe du Monde. Donc à un moment donné, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent par claquer un quart. Après, pour répondre à ta question initiale, est-ce qu'on retrouvera ces 8 là? Moi, j'ai du mal à imaginer la Croatie. Surprise dans l'autre sens, je vois pas l'Argentine aller loin. Ça, c'est mon petit take.
Tu vois pas l'Argentine aller loin?
Je vois l'Argentine flopper.
La Croatie. La Croatie qui vient de s'incliner en amical 2-0 face à la Belgique.
Et si on cite le Maroc, on est obligé aussi de autre nation africaine qui a impressionné, c'est le Sénégal, bien sûr. Le Sénégal sera une équipe très costaud aussi. Ils sont dans le groupe de l'équipe de France.
Après, juste toutes les sélections africaines, je ne les ai pas toutes, il m'en manque une.
T'as la RDC qui est là, t'as le
Sénégal. Ah, t'as la RDC
J'ai pris Delta de la Tunisie avec Sabri Lamouchi.
Ouais, ça oui.
Qui a joué hier en amical?
L'Algérie. Non, l'Algérie n'y est pas. La RDC s'est occupée du Nigeria.
C'est ça.
Et pas qu'un peu.
Ouais. T'as le Ghana qui est là. Ghana, ça me paraît plus compliqué. T'as l'Afrique du Sud qui va rejouer le match d'ouverture en Mexique.
Le Ghana et le Nigeria et le Cameroun, quoi.
Ouais, c'est des qualifs. Voilà, des qualifs, hein. Mais oui, ils sont passés. Égypte aussi en nation africaine, absolument. Et il y a le Cap-Vert aussi.
Ah voilà, c'est le Cap-Vert que j'avais.
Ouais. Équipe surprise, il y avait le Cap-Vert. Ouais.
Alors, les favoris, les surprises.
Moi, j'ai une surprise. Je les ai vus jouer hier. La proposition foot m'a bien intéressé. Les États-Unis.
Les États-Unis,
parce que tu as une génération qui m'a l'air très intéressante. Emmenée notamment par un Balogun qui est pas mal, qui est dans une forme en ce moment avec Monaco et les États-Unis qui est très intéressante.
T'as cité ces deux copains de devant, Reina et Pépi, qu'on va peut-être découvrir.
Pépi que j'ai beaucoup aimé contre le Sénégal. Reina, Serginho Dest qui a marqué, et globalement une équipe qui déjà avait été intéressante en 2022, et avec un sélectionneur, qui va dans le sens de l'avis tranché, que Kevin Diaz a dit que c'était pas un avis tranché,
Mauricio
Pochettino, qui doit apporter sa plus-value tactique, notamment pour ce pays-là.
Qui a laissé Tesman à la maison, j'ai vu passer.
On va s'en remettre.
On va dire le scandale du siècle.
Ah, écoutez, je connais pas, bien sûr, mais
je glisse
ma petite info, là.
Moi, je connais pas tous les 26 joueurs américains, mais je pensais quand même que Tesman y serait, par contre. Il était au JO, c'est un joueur qui a fait une belle saison à Lyon. Moi, je pensais qu'il y serait, mais bon.
Par contre, j'ai un élément d'inquiétude pour les États-Unis, c'est que la charnière centrale, c'est deux réverbères qui ont du mal à se retourner rapidement. Et ça, sur une Coupe du Monde.
T'as celui de Toulouse, non? T'as McKenzie qui est.
Ouais, c'est ça, ouais. Et sur une Coupe du Monde, tu peux être en difficulté. Ça leur avait déjà posé problème en 2022.
Après, pour aller dans le sens de ton avis tranché, ils vont quand même avoir l'avantage de jouer à domicile, quoi.
États-Unis à domicile, il peut y avoir un avantage.
Voilà. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'ils vont compter vraiment sur un engouement
si on peut compter sur le patriotisme, c'est les Américains quand même.
Ça marche aussi dans un stade de foot. On a tous connu Elton, peut-être 94, États-Unis 94, t'as des souvenirs un petit peu quand même. Alexis Lalas, ouais, non.
Mais oui, Alexis Lalas, bien sûr, ce maillot extraordinaire.
Ah là là, ils l'ont ressorti d'ailleurs, ils ont fait une réédition. Kobe Jones et Ernie Stewart et tous les.
On parlait tout à l'heure du rouge de Leonardo sur les États-Unis.
Bien sûr, le coup de coude.
Le 8e de
finale. On va accueillir Okan qui a fait le 32-16. Salut Okan.
Salut.
Excuse-moi, mais le prénom
j'ai
la Turquie en équipe surprise. Avant Okan, c'est le prénom qui m'a réveillé. Comme ça, évidemment, j'ai la Turquie dans mes petits pronos. J'ai la Turquie qui va loin.
Et ben voilà.
Je viens d'entendre les États-Unis surprise, mais malheureusement pour Elton, j'ai une théorie.
C'est quoi ta théorie?
Ma théorie, c'est la Turquie arrive premier de son groupe, et donc on affrontera un troisième. Et j'ai toujours cette théorie que le pays organisateur, quand il arrive premier, il a un chemin plus ou moins abordable. Mmh. Un peu comme Arsenal en Ligue des Champions a eu son chemin tout tracé. D'ailleurs, je pense que Paris aura la troisième parce qu'elle arrivera premier en poule, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense vraiment que la Turquie, on se rappelle, la dernière fois que la Turquie était en Coupe du Monde, c'était en 2002. Elle n'a pas été qualifiée depuis. Elle a fait beaucoup d'euros, ça s'est mal passé.
Vous n'y allez pas pour rien en Coupe du Monde.
Déjà, avec là aussi un sélectionneur étranger, on en parlait, Vincenzo
Montella, qui fait un bon boulot.
Là-bas, on parle de pression en plus.
Je pense que ce sont les joueurs qui vont faire la différence cette année, parce que à chaque ligne, peut-être le gardien, et encore, je trouve qu'il est bon. À chaque ligne, on a un top player.
C'est qui le goal? C'est pas Bayindir? Shakir qui est titulaire.
Ouais, c'est soit Shakir ou soit Bayindir, et après je me rappelle plus s'il a pris Destan Oğlu, mais je me souviens plus. Mais on a Kadıoğlu qui est pour moi un top latéral.
Ouais, j'aime bien,
c'est surtout t'as deux joueurs énormes, t'as Yıldız et Arda Güler dans la même équipe. Rien que pour eux, t'as mis ta télé de regarder la Turquie en fait.
Le grand
et Çalhanoğlu, le Modric turc quoi, qui est le maître à jouer. Kenan Yıldız, pour moi top player, même si je sais pas trop quelle position il doit jouer, peut-être à gauche. Arda Güler qui est notre nouveau Özil, si je peux me permettre. Et en tout cas, on y croit vraiment. La Grinta, c'est sûr qu'elle sera là à 100%. Et je pense vraiment qu'on ira au moins en quart.
Elle est comment la communauté turque? Elle est présente aux États-Unis?
La communauté turque est présente partout dans le monde, mais elle est présente aux États-Unis.
Okay.
Non, mais vraiment.
Non, mais parce qu'on sait que normalement, il y a souvent un gros groupe de supporters.
Mais elle existe, hein. Elle existe en Turquie, bien sûr.
Okay.
Non, mais j'ai beaucoup analysé ton équipe. Non, pas du tout. Non, mais plus sérieusement.
Elle a joué hier 4-0 contre la Macédoine. Bon, c'était
juste. Ouais, mais pour moi, s'il y a une limite, c'est ton numéro 9. Parce que c'était déjà ce qui t'avait coûté la qualification en demi-finale contre les Pays-Bas.
C'est vrai.
Bon, tu tombes sur un Verbruggen qui avait été extraordinaire sur ce match-là. Et tu vois, t'as les joueurs de côté, les Baris que t'as oublié d'évoquer, qui est un très bon joueur. Et par contre, il va falloir impacter avec ton avant-centre.
Moi, je vois Kenan Yildiz, Ouzoun qui a marqué hier. Je vois que Kenan Yildiz qui peut porter ce numéro, même si je pense qu'il mettra Barré Chilmaz. Depuis Akanchukur, je pourrais même pas citer un grand attaquant turc, hein, un numéro
9. De Porto là qui joue, c'est ça, c'est Denis Gül qui démarre hier, qui a mis des buts avec Porto, mais c'est un peu léger encore, peut-être pour le premier.
La Turquie donc, dans le groupe D.
Ma surprise. On a eu le Maroc en demi-finale à la dernière Coupe du Monde, personne misait dessus. Hein.
États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie, ça peut passer pour la Turquie quand même.
Ça va passer,
en effet, surtout avec trois qualifiés. Kevin, on t'a pas entendu toi sur tes favoris et outsiders pour un favori, une surprise.
Moi, je pense que la surprise. Alors pour certains, c'est un favori, mais moi, je pense que la surprise, ça peut être le Brésil en fait.
Je m'y attendais à cette comédie de vous deux, bien sûr, mais je suis très sérieux.
J'ai une question. Le Brésil champion du monde, c'est pas une surprise.
Bah si, c'est.
Si, donc tu vois champion du monde.
Moi, je suis d'accord avec
toi.
Je te dis que ça peut être une très belle surprise.
Non, mais dans l'absolu, t'as 48 nations qui peuvent être.
Non. Le Brésil, c'est pas n'importe qui. Le Brésil, c'est. Moi, je te dis que aujourd'hui, pour la planète football, si le Brésil est champion du monde, c'est une surprise.
Donc là, aujourd'hui.
Bah, ce serait ma surprise, si tu veux que je te dise.
Donc là, aujourd'hui, tu mets ton portable sur le Brésil champion du monde.
Moi, de toute façon, moi, je parie pas sur le football déjà. Mais je te le dis, j'ai ni mon portable, ni 5 euros. 5 euros à la rigueur pour le fun, mais je te dis que pour moi c'est une surprise s'ils gagnent la Coupe du Monde ou même s'ils vont en finale. Pour moi c'est une surprise.
Je pense que ça peut être une surprise.
Une équipe qui est 5 fois championne du monde, qui a Carlo Ancelotti sur son banc, qui a Vinicius,
vous voyez très bien où je veux en venir.
Oui.
Et par contre les inquiétudes. C'est pour le Portugal. Moi, je trouve qu'on les voit trop beaux. Parce que pour moi, je l'espère, hein, bien sûr, du fond du cœur, qu'ils arriveront à la porter à Cristiano Ronaldo. Mais objectivement, j'espère me tromper, mais je n'y crois pas.
Même avec l'apport des Parisiens qui sont sur l'ordinateur.
Il y a l'entraîneur qui m'a pas l'air très très courageux. Et t'as Cristiano Ronaldo qui a 41 piges.
Ouais, mais au Portugal, ça joue avec un vrai numéro 9.
Sincèrement, tu regardes la ligne d'attaque, c'est une ligne d'attaque Instagram, c'est qu'il y a de beaux noms, mais factuellement, en termes de performance, ça ne marche pas.
Souviens-toi du soir où on a découvert Gonzalo Ramos remplaçant Cristiano Ronaldo.
Je pense pas qu'il va démarrer neuf à la Coupe du Monde comme a dit Kevin. Ronaldo est là, Ronaldo il va jouer.
Bah oui.
Et Ronaldo, s'il joue, c'est en neuf.
C'est pas que ça, mais c'est pas le fait d'être neuf. C'est le fait de tirer tous les coups francs, c'est le fait de tirer tout ce qui a attiré. Non, moi, ça m'insupporte trop.
Après, réservoir exceptionnel au milieu, mais même, je regardais la liste en défense centrale, c'est moins costaud qu'il y a.
Journaliste portugais, je demande, est-ce que vous allez tirer les coups francs? En fait, parce que sinon, il y a Joao Neves qui est juste meilleur. T'as Bruno Fernandes, t'as Nuno Mendes qui sont juste meilleurs.
C'est pas Roberto Martinez qu'il faut poser la question, puisqu'il a dit qu'il voyait bien Ronaldo disputer celle de 2030 également.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais,
donc, il est un petit peu. Je suis d'accord avec Kevin sur Portugal, ça, c'est pas sur le Brésil, ça peut pas être une surprise qui gagne la Coupe du Monde. D'aller contre Cristiano Ronaldo. La réponse dans 9 jours, ça approche cette Coupe du Monde. 2026, dont vous ne manquerez rien évidemment sur RMC. Petit détour par Roland Garros, je crois que Eric Salio s'ennuie un petit peu. Alors on va aller le distraire. Salut Eric.
Salut à tous.
Alors
salut,
qu'est-ce qu'on a au menu de cette night session?
On joue à Roland ou Fonseca. Qui est un peu le chouchou de Roland Garros.
Et de Jimmy Brown.
Bien sûr.
Oui, il a dû lui faire gagner beaucoup d'argent.
Qu'est-ce que tu veux dire ça?
Là, pour le coup, un Brésilien qui arrive en finale, ça, c'est une surprise.
Voilà.
Alors, c'est la sensation quand même de ce Roland Garros, même si on le voit arriver sur le circuit depuis quelques mois.
Bah, il a tout simplement confirmé son exploit contre Djokovic en battant Casper Ruud il y a deux jours. Mmh. Et là, c'est Jakub Mencik qui se présente devant lui, le grand Tchèque, très puissant. Je pense qu'il est favori si physiquement il est encore bien. Maintenant, il a beaucoup de temps de jeu, c'est ça qui est inquiétant. Mais pour l'instant, la rencontre a débuté sur une très bonne base. 2-1 pour Joao Fonseca. Et je cherche, ça y est, Guga est là. J'étais inquiet parce que il devait prendre un petit verre dans la tribune officielle. Ah. Donc ça y est, les deux. Et Maria Sharapova est dans les murs. Et je pense, et je sais pas mes jumelles, j'ai oublié mes jumelles.
Mais on m'a dit qu'elle te cherchait, donc tu risques
oui, on ne s'est pas trouvé. On s'est pas trouvé.
Écoute, tu finiras par tomber sur l'ancienne championne.
Elle n'a pas trouvé la cantine de la presse.
Russe. Du beau linge, donc.
Si tu veux croiser Alex Agnew, c'est à la cantine de la presse que tu
vas. Bien sûr, toujours. Eric, bien placé, jamais loin du buffet. À tout à l'heure, Eric. Mensik Fonseca, c'est l'affiche de cette Night Session. Vous ne bougez pas, Génération. On te revient dans un instant. Jimmy Brand, Kevin Diaz, Elton Mokolo. Et vous, évidemment, comme d'habitude.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Simon Dutin.
L'after est là tous les soirs de l'année. On est à J-9 de la Coupe du Monde 2026. Donc vous ne manquerez rien, évidemment, sur RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo pour vous accompagner jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'after en compagnie de Florent Gautreau et Daniel Riolo. Gilles Vessière, notamment, sera invité, ancien arbitre international. Il a beaucoup de choses à partager, beaucoup de souvenirs à raconter. D'ici là, nous, on continue notre projection sur ce tournoi. On parlait avec les copains des favoris, de ceux qui pourraient être outsiders, de ceux qui pourraient se rater. J'ai beaucoup aimé l'audace de Kevin qui je parle en toute sincérité, qui parle du Brésil comme d'une potentielle surprise. C'est vrai, oui, que si le Brésil ajouter une sixième étoile, ça ferait six, hein. Il va falloir faire de la place, hein, sur les cuissons. Ce serait une relative surprise dans le monde du football.
C'est sérieux quand vous dites que c'est pas une surprise si le Brésil gagne?
C'est un peu surprise.
Une équipe surprise, c'est pas forcément un petit qui va en huitième. Une équipe surprise, c'est pas forcément un petit qui va loin. La Turquie, ça peut être une équipe surprise. Le Brésil qui va loin dans une Coupe du Monde.
Ah, c'est pas une surprise.
Non, c'est pas une surprise.
Kevin, mais ils ont fait quart de finale. Ils ont fait quart de finale.
Non, ils étaient quart de finaliste.
Oui, mais là, ils arrivent moins bien qu'en 2022. En 2022, ils ont Neymar quand même encore quasiment dans son prime.
Enfin, excuse-moi, dans le football de sélection.
Ça n'a rien à voir, les gars.
Dans le football de sélection, excuse-moi, il n'y a pas 8 équipes qui sont au-dessus du Brésil.
Voilà. C'est pas la question d'avoir 8 équipes. Je vous ai dit que c'est finale ou demi ou finale ou victoire.
Au départ.
Finale ou victoire.
Au départ, on a dit équipe surprise. Tu dis Brésil. Déjà, surprise et Brésil. Ça marche pas.
Moi, je pense que nos auditeurs.
On passe au favori. C'est qui ton favori?
Mon favori pour gagner la compétition.
Je rappelle avant ça, Brésil dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l'Écosse. Donc voilà.
Honnêtement, je n'ai pas de favori numéro 1. Ouais, j'ai 4 équipes qui peuvent la gagner, qui sont favoris pour moi. Dans ces 4 équipes, je mettrais l'Argentine pour le back-to-back. Je mettrais la France, je mettrais l'Espagne et potentiellement une équipe comme l'Angleterre qui, pour moi, quand même, sur les 5 dernières compétitions mondiales, a montré qu'ils étaient toujours au rendez-vous. Alors pourquoi le football ne pourrait pas enfin coming home?
J'aime bien.
It's coming home.
Mais quatre équipes, mais pas le Brésil. Le Brésil peut la gagner. T'as compris?
Mais le Brésil, ils sont pas dans les 4 favoris.
Surprise.
Regarde les bookmakers. Ils sont pas dans les 4 favoris.
Ils sont pas très loin quand même. Mais moi, l'Espagne et la France. Mais dans cet ordre-là, d'abord l'Espagne, ensuite la France. L'Espagne, avec les quelques réserves que tu peux avoir sur l'état de santé de Lamine Yamal et dans une moindre mesure de Nico Williams, qui est moins fondamental que Yamal. Mais si Yamal, il arrive à 100% en Coupe du Monde. Franchement, parce que moi, je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu à l'Euro, en fait. J'ai vu tellement fort à l'Euro les Espagnols. On l'a dit, on l'a répété, c'est la seule équipe, t'as l'impression qu'ils jouent, c'est comme un club, en fait. C'est comme du foot de club. Ils sont tellement rodés, tellement faciles. Même là, le dernier rendez-vous que j'ai, le dernier match marquant que j'ai, c'est la Ligue des Nations contre la France, où tu sais, ils réduisent l'écart sur la fin. Mais c'était un massacre.
J'ai une question pour Jimmy, parce qu'on a une accointance particulière avec ce pays. Tu crois que les Pays-Bas, ils peuvent faire un truc?
Franchement, ça, je serais très surpris. C'est peut-être une des générations les moins talentueuses.
Mais ils arrivent par la porte de derrière.
Ils avaient fait demi-finale lors du dernier Euro où ils perdent à la 93e minute face à l'Angleterre. Et maintenant, de là à rééditer une performance similaire et aller dans le dernier carré de Coupe du Monde, j'y crois pas.
Après, la Coupe du Monde, c'est pas plus dur que l'Euro.
Ah non, c'est pas plus dur, au contraire.
Avec un Daniel Malen qui a crevé l'écran,
oui,
qui arrive
dans le continent,
qui va se faire.
Quand on parlait des Pays-Bas à l'époque, je te retrouve là, le mec que tu cites en premier, mais oui. C'est Malen dans la sélection. C'est très bon joueur, Malen.
Il y a quand même mon gars sûr.
Mais tu vois, Francky.
Francky,
oui, dans quel état il est? Il le suit avec le Barça toute la saison, c'est compliqué, Deyon.
Il
est mieux, là,
Il n'a plus de match sérieux depuis février.
Tu vois, c'est ça, il arrive dans quel état?
Ouais, mais il est frais. Il y a un juste milieu entre arriver frais et être compétitif.
T'as vu, la compétition, elle va durer 72 ans. Donc,
c'est pas faux. Il a monté en puissance pendant la Coupe du Monde, ça, c'est sûr.
Personne n'a cité la Belgique, autour de la table, je note les Belges un peu en retrait.
Ce que j'ai vu contre la Croatie.
Il y a des équipes, moi, comme.
On rappelle, ils viennent de battre les Croates 2-0 en Amérique.
Il y a des équipes qu'on connaît un peu moins, comme l'Équateur, qui peuvent être, pourquoi pas.
L'Équateur, la défense qu'ils ont, Pacho, Incapier, tu as Caicedo au milieu de terrain, tu as des sacrés joueurs.
Moi, je pense que ça peut être des
Ordonez,
parce qu'en plus, n'oublions pas. On parlait d'engouement. Alors, forcément, pour les États-Unis, le Mexique aura un engouement énorme, mais je pense pas qu'ils ont une énorme génération. Mais l'Équateur, c'est pareil. Il y aura énormément d'Équatoriens dans les stades. Les Colombiens, ça va être pareil. Et l'Espagne aussi, parce que l'Espagne, il y a quand même beaucoup d'Espagnols d'origine, etc. Donc,
enfin, non, là, il est en train de nous expliquer qu'il y a des gens qui se dépassent pour la Coupe du Monde.
Non.
Merci Sherlock, on avait compris.
Ils vont pas se lâcher de l'émission. On va demander son avis à Aboubakar, qui a fait le 32-16, qu'on est content d'accueillir dans Génération After. Salut Aboubakar.
Salut les gars.
Salut Aboubakar. Alors, tu roules pour qui dans ce mondial et qui tu vois se rater, qui tu vois créer la surprise?
Non, surtout moi, si j'ai appelé, c'est parce que vous avez parlé de sélection africaine et vous avez oublié la sélection incontournable de l'Afrique.
RDC.
La sélection de Didier Drogba.
Ah oui,
t'as raison. Mais après, groupe difficile, les Ivoiriens.
Ouais. Qui s'avance peut-être avec une génération un peu moins flamboyante que les Yaya Touré.
Encore que, j'ai beaucoup aimé leur canne, les Ivoiriens.
On a une attaque de feu, les gars. On a une attaque de feu, s'il vous plaît, les gars.
Vends-nous la Côte d'Ivoire.
Attaque de feu, doucement. Là, t'arrives à la Côte d'Ivoire.
Non, j'aime bien demander tout. Moi, j'aime bien. Moi, je suis avec toi. Aboubakar.
Alors, la Côte d'Ivoire qui sera avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao dans le groupe.
C'est ça, il faut sortir avec l'Allemagne, l'Équateur. Allemagne et Équateur, ça va être dur. Ça va être en tout cas des plus beaux matchs de risque d'arriver dans ce groupe en face de poule.
Non, ça va pas être dur du tout. On est soit premier ou soit deuxième. C'est simple.
J'aime Aboubakar.
Attention avant que la compétition commence.
C'est qui la tactique?
Vous allez finir quatrième.
Alors, trois cannes, les gars, quand même. C'est peut-être pas rien, mais un trois cannes, quand même. On va pas trop doucement.
Après, je sais pas si ça t'a échappé, mais on parle de la Coupe du Monde.
On vient quand même avec certains
galons. Non, je te fais marcher parce que le tournoi il a été quand même intéressant, même si ça se finit pas bien contre l'Égypte.
Ouais, et d'ailleurs, franchement, c'est parce que l'Égypte, on a un problème avec eux.
Ouais, en plus.
Alors oui, non, mais... oui, bah, justement, la CAN est une autre compétition. Aboubakar, pour ceux qui seraient moins au fait du football ivoirien, fais-nous rêver un petit peu là, le 11 le plus redoutable de la Côte d'Ivoire là.
Bah déjà en défense, en tant que gardien, on va mettre qui? Je pense Fofana. Après, il y a Lafond qui est connu en France, mais je pense que c'est plus Fofana qui va être le gardien. Après, défense centrale, on a qui? On a Kosunu et Ndika.
Ouais, c'est ça.
Costaud.
Avec Diomandé du Sporting aussi, qui est un bon joueur aussi.
Exactement. Après, moi, j'aime bien Singo, mais bon.
T'as Guéladoué.
Il y a Guéladoué.
Guéladoué qui a fait une vraie bonne canne.
Ah oui, excellent. Il est excellent. Il s'est bien acclimaté au football africain. Moi, j'avais un peu peur. Son premier match, il a fait un peu flipper. Après, il était excellent. Milieu de terrain, on a Seko.
T'as la révélation de la CAN. Moi, j'ai adoré. C'est le petit Inao Oulaï au milieu.
Inao Oulaï, exactement. On a le petit qui est excellent. On a toujours nos éléments forts comme Kessier, comme Seri. Et puis, on a Ibrahim Sangaré qui est généralement aussi les titulaires et tout. Donc, on a un milieu pas mal. Et en pointe, on a qui?
C'est l'interrogation.
Il y a Eli Wahi qui arrive, qui va faire la Coupe du Monde.
Eli Wahi, Boni.
On a Pépé qui revient. On a Amad Diallo. Donc attention, les gars. Amad, c'est pas mal. C'est fort.
Ouais, c'est pas lui qui va jouer en pointe. C'est pas Amad Diallo qui va tenir la pointe.
Non, sur le côté.
Mais t'as plein de très bons joueurs, c'est vrai.
On a quand même demandé.
Diomandé de Leipzig.
Attention.
Et Nico Pépé, je ne sais pas si on l'a cité, mais
qui est top 5 meilleur joueur de Ligue 1.
Oui, bah ça, ça.
Ah, ça y est, il m'a mis dans ma Coupe du Monde à Boubacar.
Ça gigote bien,
j'y suis, on va suivre. On va suivre.
Un peu de respect.
Non, t'as raison.
Bien sûr, mais bien sûr.
Tout le respect pour la Côte d'Ivoire.
En plus, ce que j'ai beaucoup aimé chez Merfaï, c'est qu'il a ouvert son groupe, il a rajeuni l'effectif, il a quand même donné du galon à Diomandé et à Amad Diallo qui n'était pas présent lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai l'interrogation sur le poste d'avant-centre. On sait que ça a été le talon d'Achille sur la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que Boni ou Wahi, il y a l'un des deux joueurs qui va s'imposer? Ça va être une question très importante.
Bon, avec tout le respect que je dois à Eli Wahi, c'est peut-être le poste de la sélection où...
Finis ta phrase.
Le moins peur.
Ah voilà, c'est bah non, voilà. Je suis pas
le moins le moins l'état.
Il faut voir ce que tu avais avant Wahi. Moi je pense qu'il sort d'une bonne fin de saison.
La question n'est pas de savoir si Eli Wahi est un bon joueur. On parle de, vous l'avez rappelé, de Coupe du Monde.
Il t'a pas échappé à un truc, le poids de l'avant-centre en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années, parce qu'il y en a un qui est passé et qui a tout cassé, il est très important. On te regarde avec une loupe, elle est très importante. Donc t'as pas intérêt à te louper.
Bon.
C'est vrai, ouais.
T'as vu, j'ai raison ou j'ai tort?
Ah non, c'est vrai, Drogba, c'est quelque chose.
Ah bah oui.
Ah bah, quelle légende, oui.
Ça pourrait être un avis de Kevin Diaz, ça. Drogba, c'est quelque chose.
On le rappelle.
Franchement, moi, je suis très déçu de Kevin. Hein. Franchement, Kevin, c'est mon gars. Kevin, t'as oublié de citer la Côte d'Ivoire. Toi et moi, on a un problème aujourd'hui.
Hein. Ah non, on pouvait pas citer les 48 Kevin sélections.
Non, tu remarqueras, il a préféré citer en surprise le Brésil.
Bon. Ouais, il préfère parler du Brésil, mais c'est pas grave.
Attends, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'as pensé de la vie d'Elton tout à l'heure? Non, je plaisante. Le Brésil qui est champion du monde, c'est une surprise ou pas?
C'est oui, c'est non.
C'est oui, d'accord, non, pas d'accord.
Je te dirais. Franchement, ouais, c'est une surprise, ouais.
Eh
ben
merci.
Voilà.
Merci.
Merci.
Allez, bonne soirée.
Merci. C'est ça,
20h58.
C'est pas grave.
Bonne soirée.
Salut à Boubacar.
Tous les salut coups sont perdus ce soir. Merci beaucoup à Boubacar et bonne Coupe du Monde. À l'écoute de RMC, évidemment. La Côte d'Ivoire, je le rappelle, dans le groupe E, en compagnie de l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Jimmy Brown, Elton Mokolo, Kevin Diaz. Nous accompagne dans un instant la deuxième heure de Génération After. On va revenir en Ligue 1. On ira retrouver Maxime Tinette sur la Côte d'Azur, parler des dernières infos du côté de l'OGC Nice. Vous ne bougez pas.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.